Surpris par... Les fantômes irréguliers de l'avant-garde. Les années les tristes de Guy Debord ou la poésie du scandale. Sur quelques quartiers de Paris, une avant-garde bouleverse tous les principes de l'art et détruit avec la violence du scandale tous les éléments de la société existante. Fondé après la guerre par Isidore Isou, vite rejoint par Gabriel Pomeran, le mouvement lettriste attire à lui la jeunesse la plus révoltée. Une bande, ou plutôt un gang, se constitue avec des créateurs dont la sauvagerie n'a d'égal que le talent pour le dépassement de l'art. Rien de moins que la création d'une nouvelle civilisation basée sur la créativité généralisée. Lorsque Guy-Ernest Debord adhère au groupe lettriste en 1951, lors du scandale du film d'Isou, le traité de bave et d'éternité, il a déjà la prescience de tous les thèmes qui vont marquer les aventures du fondateur de l'international situationniste. Ses compagnons, François Dufresne, Gigi Volman, Jean Lubreau, Gabriel Pomeran, Serge Bernat, Raymond Hinz, Jacques Vinclay, Marco, forment une nébuleuse dont la rage a déjà été théorisée par Isidore Isou sous le nom de « soulèvement de la jeunesse ». Arrivé à Paris, Guy Debord a fréquenté l'envers de Saint-Germain-des-Prés, des rues où se retrouve la marginalité des voleurs, des mineurs en fugue, un mode de vie nihiliste et flamboyant. Cette période de la tribu marquera à jamais les œuvres d'anti-art de Guy Debord. En 1952, il fait scission, créant avec Volman et Brault l'international lettriste. Ce lettrisme hérétique se radicalise vers une révolution esthétique et politique. Deux voyants considérables renforcent ce groupe. Ivan Tchegloff, Gigi Livin et Patrice Rahan. C'était en 1950. Marco.
J'ai donc organisé un récital lettriste avec déjà Isou, Volman, Brault, Pomeran. Et enfin, presque tous les lettristes qu'il y avait à l'époque. Dufresne, évidemment. Et c'est là, comme ça, je les ai connus. Et là, j'ai rencontré Isou, avec qui je parlais, qui était en train de faire son film. Il m'a dit, ah, mais je fais un film, ça, j'arrive pas à le faire, etc. Et moi, je sais pas, j'étais complètement fou. Je dis, bon, mais moi, je te le produis. On fréquentait tous Rivette, Godard et tout, ce qu'on appelle le ciné-club du quartier latin. Mais c'était absolument... Et j'étais dans ce milieu-là, et Isou était dans ce milieu-là, et les surréalistes étaient dans ce milieu-là, étaient fréquentés ce ciné-club. Pour tout ce monde-là, l'idée c'était qu'on serait les meilleurs, il n'y a pas de problème.
Daniel sortit du ciné-club, la tête fracassée de bruit, comme si son crâne avait servi de gobelet aux cannibales des îles Salomon.
Traité de bave et d'éternité, Isidore Isou.
Comme si sa caboche avait été cognée dans les chin-chin barbares. Après les projections du ciné-club, dans l'incohérence des débats qui s'en suivaient d'habitude, il avait essayé d'exposer, lui, pour la première fois, ses idées neuves, originales, sur l'art du film. Et maintenant, ses propres phrases lancées dans la salle, puis revenaient, alcoolisées et enivrantes.
Le film me préoccupe pour autant qu'il y a en lui-même des possibilités de découverte, de progression continuelle. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent et fait ce qu'il ne doit pas faire.
J'aime la poésie, je trouve que Volman c'est formidable, et Megapneum et Dufresne je trouve extraordinaire. Donc j'ai même produit dans mes pièces mis des choses, des comptines qu'il a écrites, qui sont formidables. Je n'appartenais pas au groupe, si vous voulez. J'étais très, très, très avec eux. Et j'ai eu des rapports tout à fait personnels, même à part l'autre, avec Isou. Je sais des tas de choses que les autres ne savent pas. Donc, on ne sait jamais. C'est pareil. Je dis, moi, je fais ça. Etc. Elle m'a dit, oh, comme il savait que j'avais, ah, si tu veux le soulèvement de la jeunesse, tu peux. Alors, j'ai dit, bon, je fais le soulèvement de la jeunesse. Etc.
C'était des enfants déracinés venus de tous les coins d'Europe. Beaucoup n'avaient ni toit, ni parents, ni papiers. Pour les flics, leur statut légal, c'était celui de vagabond. C'est pourquoi ils finissaient tous par se retrouver à la santé. On vivait dans la rue, les cafés, comme une bande de chiens bâtards. On avait notre hiérarchie, nos codes bien à nous. Les étudiants, les gens qui travaillaient en étaient exclus. Quant aux quelques touristes qui venaient reluquer les existentialistes, il était permis de les rouler. On se débrouillait toujours pour avoir du gros vin et du hash d'Algérie. On partageait tout. Vali Meyers.
Moi, j'ai démarré chez Luther, justement.
Sacha Strelkov.
Qui avait un club rue des Carmes.
C'était là où le
jazz est arrivé. C'était rue des Carmes, sous l'hôtel des Carmes, il y avait une cave. Et donc,
le Lorientais. Le Lorientais, oui.
Après, bon, il y a eu tous les meilleurs du jazz américain sont passés à Saint-Germain-des-Prés. Bon, il y a eu Dizzy Gillespie avant, Charlie Parker a joué à Playel. Tout le monde venait à Saint-Germain-des-Prés quand même, à un moment, tout le monde passait.
Mais nous, par exemple, on s'est connus au Dupont Latin.
Claude Clavel. Hein?
Sacha, il y avait Garance. De Belle-Île, là, qui est sur
Henri de Béarn.
Henri de Béarn. Si il y avait encore Pépita.
Pépita. Ouais.
Tchigouaf était déjà là ou
Non, il est arrivé plus tard. Il est arrivé plus tard, quand même.
Es-tu sûr de l'internement d'Ivan Tchigouaf? J'avais entendu raconter cela il y a plusieurs mois, mais je n'y avais pas cru. En ce moment, Sacha Strelkov m'affirme l'avoir rencontré libre, il y a moins de 3 mois. Ce serait donc à vérifier. Si c'était vrai, je suis prêt naturellement à toute démarche utile. Lettre de Guy Debord à Patrick Straran.
On était au Saint-Claude. Hein. Puis ensuite, nous, on était dans un bistrot rue du Four, enfin devant un bistrot. C'est le père Moineau qui nous a dit j'ouvre un café demain.
On fait vraiment l'ouverture.
Oui. Venez et il nous a fait une soupe. Il y avait déjà la vieille Moineau derrière et il nous a fait une soupe. Et après, alors tout le monde, mais je sais pas, en très très peu de temps.
Votre mère, madame.
Oui. En très peu de temps, ça a été plein.
Quoi. Toujours sûr. Oui.
Alors il y avait une bande au fond. Bon, qui étaient les intellectuels.
La bande était composée de qui à l'époque? Est-ce que Jean-Michel Manson était déjà là? Est-ce que...
Manson est arrivé, oui.
Très vite.
Oui.
Et donc Feuillette aussi?
Oui, Feuillette, oui.
Hubert.
Oui, Jean-Claude, oui. Oui.
Feuillette est arrivé un peu plus tard.
Oui, peut-être.
En arrivant là, il a zoné comme tout le monde.
Non, et puis bon, il y avait une ambiance extraordinaire. Il y a l'exemple d'un type, par exemple, qui était livreur Coca-Cola. Qui a posé son juste à l'angle son camion de livraison. Il est rentré, il a commencé à picoler, il est resté toute la journée.
Il n'est jamais reparti,
les gens sont venus chercher le camion. Et on ne l'aura pas volé dans Coca-Cola.
Dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés.
Hurlement en faveur de Sade, Guy Ernest Debord.
Tu sais, tu me plais beaucoup. Un important commando de lettriste. Constitué d'une trentaine de membres, tous revêtus de cet uniforme crasseux, qui est leur seule marque vraiment originale, débarqua sur la croisette avec le désir bien arrêté de se livrer à quelques scandales susceptibles d'attirer l'attention sur eux.
Le bonheur est une idée neuve.
J'ai appris qu'Isidore Rizou bataillait pour faire passer un film lettriste. Durée de projection, 5 heures, qui doit révolutionner le cinéma. Et que le festival refuse. Il s'intitule « Traité de bave et d'éternité ». Hier soir, Fillon et moi sommes repassés à l'offensive avec de la chaux, inscrivant « Isou » en de nombreux points de la ville et sur 4 bancs de la croisette. Le marquis de Sade a des yeux de fille, de beaux yeux pour faire sauter les ponts. Lettre de Guy Debord à Hervé Falcou.
Isou, j'ai eu très peur d'aller à Cannes, parce qu'il y a ici un scandale, c'est un truc, etc. Moi, je suis roumain, etc. Je vais être expulsé, etc. Je ne veux pas aller à Cannes. Je lui ai dit, écoute, c'est emmerdant, etc. Alors moi, je suis descendu avec un ami américain, qui est un écrivain, un beat generation, Matthew Carney. Je lui ai dit, on monte l'affaire, et on voit comment ça se passe, et si ça se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, alors, comme j'ai rencontré Cocteau, il est venu à la fin du festival, Isou, seul. Et quand je suis arrivé là, on avait tout de suite eu les lettristes descendant à Cannes, etc. On avait eu de la presse, etc. Et comme c'était moi qui représentais Izou, le producteur et tout, Debord habitait Cannes, et il était étudiant. Et il est venu en tant qu'étudiant me voir en me disant « Ouais, j'ai lu les poèmes lettristes, les trucs. » Je ne sais pas s'il avait lu l'agrégation de noms et nommés ici. Ça, je crois pas, non. En tout cas, il m'a parlé des poèmes lettristes. Et donc là, et je dis, bon, mais tu vas voir, il faut que tu viennes. Et Izou, s'il vient, je te le présenterai. Effectivement. Mais moi, je suis retourné parce que Izou, Debord, j'étais devenu très très copain avec lui. Il me dit, ah, ça se passe au mois de mai, pourquoi tu viens pas comme ça à Cannes, c'est bien l'été, etc. Je suis là. Et moi, j'ai passé comme ça 2-3 mois avec lui à Cannes. J'ai toujours eu profonde, une grande amitié. Je crois toute ma vie. Sauf qu'on s'est séparés après, je dirais comme ça, mais se séparer sans se séparer. Parce qu'on n'a jamais dit qu'on se séparait, on a cessé de se. Mais dans ma vie, un des personnages les plus intéressants que j'ai rencontrés.
Qu'est-ce que vous faisiez pendant ces mois d'été
Parler. On parlait à l'époque. Moi, j'étais quand même un peu plus embarqué politiquement de ce qui s'est passé en Algérie. La guerre d'Algérie avait commencé, il y avait déjà des troubles, il y avait déjà tout un tas de problèmes. Et on cherchait de l'argent. Donc moi, comme Cocteau était là que je connaissais, il habitait chez ça, au Cap d'Antibes. Et moi, j'étais là très sadique. On lui disait, écoutez... Alors premièrement, je le terrorisais tout le temps avec l'histoire de Breton. Parce qu'il a une peur terrible de Breton. Il savait que j'étais ami avec André Breton. Alors il était là. Et je lui disais, parce que... Vous savez, André Breton, il n'a même pas de quoi s'acheter une bouteille d'eau de Cologne.
Pas vrai,
des histoires. Et là, on avait été le voir, et puis je lui ai dit, vous savez, il y a des Algériens qui sont pourchassés comme ça, on a des amis qui les parachutistes, ils les cherchent partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelques tentes dans le... Ah non, je n'en suis pas. Je suis pas chez moi, je suis chez mon autre, etc. Donc voilà, avec Debord, quand on a essayé de trouver comme ça de l'argent auprès des... Parce que c'était des peintres qui nous faisaient souvent des peintres d'un tableau. C'était pour la revue Yon. C'était de l'argent pour faire des revues, pour faire des films.
Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d'élargissement qu'il esquissera, le cinéma éclatera. Sous le coup d'une congestion, ce port, rempli de graisse, se déchirera en 1000 morceaux. J'annonce la destruction du cinéma.
Alors on est en 1951 et tout de suite, de toute façon, ce film fait l'objet d'une exégèse immédiate. C'est le prologue de l'anticoncept de Volman,
Nicole Brenez,
donc la même année, qui commence par abréger l'histoire du cinéma. Donc les frères Lumière, Promio, et puis arrive Izou, le traité de Bave et d'éternité. C'est le mi-temps du siècle du cinéma, du XXe siècle, et c'est un recommencement intégral du cinéma à partir, en quelque sorte, de sa destruction, de sa négation, de sa coulisse, de sa structure. C'est un recommencement intégral. Il est reconnu comme tel immédiatement à la fois par ses camarades, donc Volman en tout premier lieu, le maître et puis les autres, mais aussi par les jeunes cinéastes qui... commencent leur trajet au même moment, donc leur trajet soit en tant que critique, soit déjà en tant que créateur. Eric Rohmer va très vite reconnaître le traité de Bave et d'éternité, Cocteau bien sûr, et Jean-Luc Godard un peu plus tard.
Je veux plaquer sur une pellicule une masse hurlante, sans rapport avec les scènes de l'écran. On doit rendre indifférent le déroulement des images par rapport à l'histoire sonore terrible qu'on projettera, qu'on lancera dans l'obscurité de la salle.
Les lettristes ramassent après-guerre les problématiques des avant-gardes.
Didier Semin.
Dans les années 10 et dans les années 20, telles qu'au fond la guerre les a laissées en plan. Et la question du retour aux origines du langage, au borborygme, à la lettre isolée, on trouve ça très très directement chez les symbolistes et dans les avant-gardes des années 10 et 20 chez Kandinsky par exemple.
On a peau,
Raoul Haussmann.
Et moi, je suis assez frappé par le fait que cette utopie de la lettre en soi s'effiloche avant-guerre pour plein de raisons, et que les lettristes la ramassent après-guerre, comme s'ils venaient de trouver le trésor. Il me semble que beaucoup de jeunes gens à ce moment-là sont totalement emballés par cette idée, et qu'une partie de la séparation qui va se faire entre les lettristes intégristes, et qui sont à mon avis les moins intéressants, et les artistes intéressants, Dufresne-Volman par exemple, la séparation se fera à mesure que ces jeunes gens vont s'apercevoir que les lettristes, au fond, s'approprient un peu quelque chose qui est le bien commun des avant-gardes.
En 1947, la poésie onomatopéique marquait la première intervention scandaleuse d'un nouveau courant d'idées. Un groupe réuni sous le nom de lettristes, à cause de la poétique qu'il proclamait, devait, dans les années qui suivirent, étendre son champ d'action au roman, à la peinture, 1950, et au cinéma, 1951. Dadaïsme en positif, cette époque du mouvement opéra la critique de l'évolution formelle des disciplines esthétiques dans un souci exclusif de nouveauté qui n'était pas, comme on nous l'a trop facilement objecté, goût de l'originalité à tout prix, mais volonté de se soumettre les mécanismes de l'invention. L'élargissement dialectiquement prévisible des objectifs du lettrisme, marqué par de vives luttes de factions et l'exclusion de meneurs dépassés, devait situer le problème dans la seule utilisation de ces mécanismes à des fins passionnelles. Michel I. Bernstein, André-Franck Connor, Mohamed Daou, Guy-Ernest Debord, Jacques Fignon, Vera, Gilles J. Volman, Le bruit et la fureur, Potlatch, numéro 6, 27 juillet 1954.
Dès la période où il fréquente Isidore Isou,
Vincent Kaufmann,
il y a chez Debord une volonté d'aller plus loin, de radicaliser quelque chose qui, en tant que projet, fait incontestablement partie de l'histoire des avant-gardes, c'est-à-dire précisément cette question du dépassement de l'art. Finalement, l'horizon du dépassement de l'art a toujours constitué l'horizon des avant-gardes du XXe siècle. Donc, il fréquente le petit milieu lettriste, Isidore Isou et ses complices, et très vite, il y a chez lui une volonté d'aller plus loin, une volonté de dépasser ce type, disons, de contestation dadaïste ou post-dadaïste de l'art, et ceci au profit d'autre chose. Donc, la rupture de l'international lettriste, de la fameuse conférence d'Aubervilliers, il y a évidemment un effet parodique dans le fait que c'est intitulé conférence, il y a donc à la fois quelque chose qui est parfaitement logique du point de vue d'une histoire générale des avant-gardes, et puis il y a quelque chose de plus particulier, de plus singulier, qui va caractériser toute la suite de la démarche de Guy Debord, qui est précisément de réaliser ce dépassement de l'art qui a toujours été l'horizon des avant-gardes. Même si le groupe qu'il fonde à ce moment conserve le label lettriste, à mon sens de façon assez ironique, il s'agit bien d'en finir avec les procédures plus ou moins formelles de déconstruction, de destruction de l'art au profit d'un art qui serait entièrement passé dans le vécu et qui, bien entendu, pour passer entièrement dans le vécu, va en fait disparaître en tant qu'art.
Jean-Marie Apostolides.
Tous ces événements se passent dans un temps particulier et dans un lieu particulier. Le temps particulier, c'est l'après-guerre. Tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes filles ont connu la guerre, ça les a énormément marqués. Ils ont vu la collaboration de la génération précédente avec le régime du maréchal Pétain.
La Légion des volontaires français, c'est à Versailles, à la caserne Bornis des Bordes, que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevique. Ces jeunes français, rentrés pour la plupart dans leur foyer depuis quelques mois à peine, se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme.
Ils ont vu la libération, mais aussi les excès au moins apparents de la libération et certains excès de l'épuration. Ils ont 16 ans, 17 ans, ils ne croient plus à rien. Ils sont complètement brisés, ils ont une méfiance absolue envers la génération précédente. Aucune des grandes voies qui s'offraient à droite comme à gauche dans la dimension du socialisme, du communisme pour la gauche.
Leader du Parti communiste revenu de Moscou allait à Hénin-Liétard fêter la Sainte-Barbe au milieu de ses compagnons d'autrefois. Et plusieurs milliers de personnes écoutaient l'ex-vice-président du Conseil faire l'apologie de la grève.
Et ils ont l'impression de n'avoir pas de futur devant eux et d'être en même temps dans la nécessité d'inventer quelque chose. Voilà pour le temps, et ça, il faut le redire, le contexte de cette génération née aux alentours de 1930 est extrêmement important. Le lieu, maintenant, c'est Saint-Germain-des-Prés, qui est assez unifié à l'époque et qui est un lieu où se recréent beaucoup de choses, où bien sûr, il y a les existentialistes qui dominent et qui attirent un certain nombre de touristes. Là-bas, Sartre est une figure extrêmement populaire, Simone de Beauvoir aussi, Albert Camus, mais à côté d'eux, il y a des gens qui partagent certains de leurs intérêts, certaines de leurs questions, et qui n'en ont pas la notoriété.
Il n'y a pas eu d'épuration après la libération. Là, il n'y a pas eu. Moi, je n'étais pas bien grand, mais je me souviens quand même des flics qui nous avaient arrêtés, ma mère et moi. Et je les ai retrouvés à la libération avec des brassards et fifi.
À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges.
Enfin, quand ils m'ont vu, qu'ils m'ont reconnu, ils ont, enfin, un seul a quand même est parti parce que il avait la trouille que jamais de la foule, etc. En disant c'est celui-là qui m'a arrêté.
En Indochine, pour stopper les coups de main des partisans du Viet Minh, de plus en plus fréquents depuis l'ouverture des hostilités en Corée, les troupes françaises viennent de réaliser une vaste opération de nettoyage dans la plaine des Joncs, zone marécageuse qui entoure Saigon. Les prisonniers ont été faits et leurs armes de modèle récent attestent l'aide fournie par les communistes chinois aux partisans d'Ho Chi Minh.
C'est l'époque de la guerre de Corée aussi, et nous avions nommé certains sites, c'était Pyongyang, c'était Séoul, c'était des boulangeries, des bistrots et tout, c'était des repères.
C'était politisé ou pas du tout?
Non.
Mention était que...
Mention
était au parti communiste à l'époque. Oui. Oui. Il disait après qu'il était espion, mais enfin je crois qu'il était vraiment comme ça.
Au départ, écrivit Moore, l'assaut sur Notre-Dame avait été imaginé comme une farce. Bien sûr, il voulait provoquer une réaction, mais en lui plutôt qu'au dehors. C'était son propre Dieu qu'il lui fallait tuer pour être libre. Il devait détruire l'Église à l'intérieur de lui. Mais assis au Mabillon avec Serge Bernat, Guilain de Marbais, Jean Hullier et une poignée d'autres qui allaient se dégonfler au dernier moment, une autre dimension apparut. Ce pouvait être un cri de révolte. Les ratés pouvaient libérer le genre humain. Il était minuit et l'unique tasse de café qu'avait commandé la tablée était bourrée de cendres et de saleté. Ils se levèrent. Grail Marcus, Lipstick Traces.
Mais Moore était monté à la chaire à Notre-Dame. Il s'était habillé en ecclésiastique. Il a réussi à monter en chaire. Et il n'a pas eu le temps de dire grand-chose, mais Jean Dieu est mort. Quelques slogans comme ça. Et puis après, il a été embarqué. Non, il y a eu aussi le scandale avec Henri de Béarn qui a voulu faire sauter la Tour Eiffel.
Quoique méprisant toutes les illusions idéologiques et assez indifférent à ce qui viendrait plus tard leur donner raison.
In Jerome imus nocte, et consumimur igni, Guy Debord.
Ces réprouvés n'avaient pas dédaigné d'annoncer au dehors ce qui allait suivre. Achever l'art, aller dire en pleine cathédrale que Dieu était mort, entreprendre de faire sauter la Tour Eiffel. Tels furent les petits scandales auxquels se livrèrent sporadiquement ceux dont la manière de vivre fut en permanence un si grand scandale.
La provocation lettriste sert toujours à passer le temps. La pensée révolutionnaire n'est pas ailleurs. Nous poursuivons notre petit tapage dans l'au-delà restreint de la littérature, et faute de mieux, c'est naturellement pour nous manifester que nous écrivons des manifestes. La désinvolture est une bien belle chose. Mais nos désirs étaient périssables et décevants. La jeunesse est systématique, comme on dit. Nous avons congédié Izu, qui croyait à l'utilité de laisser des traces. Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police. Presque tout nous est interdit. Le détournement de mineurs et l'usage des stupéfiants sont poursuivis comme, plus généralement, tous nos gestes pour dépasser le vide. Plusieurs de nos camarades sont en prison pour vol. Nous nous élevons contre les peines infligées à des personnes qui ont pris conscience qu'il ne fallait absolument pas travailler. Nous refusons la discussion. Les rapports humains doivent avoir la passion pour fondement. Sinon, la terreur. Sarah Abouaf, Serge Bernin, Pidgey Berlet, Jean-Louis Bro, Leibé, Nidou Daou, Guy-Ernest Debord, Linda, Françoise Lejar, Jean-Michel Mansion, Eliane Papaye, Gilles G. Volman. Manifeste international lettriste numéro 2, 1953.
L'international lettriste a été créé chez Jean-Louis Brou.
Jacques Villeglou.
Eliane Papaye, je l'avais connue au mois de juillet précédent, juste à son arrivée en juillet 52. Elle devait avoir 15-16 ans et tout. Et donc, j'ai cherché à distinguer quand Debord a vraiment créé l'international lettriste. Donc, par des relations, j'ai su que certaines personnes sont allées avec Dufresne chez Moineau en septembre. Donc, la séparation Dufresne et Debord s'est faite pour la création de l'international lettriste, parce que Dufresne faisait toujours des jeux de mots, donc on ne peut pas créer une internationale révolutionnaire avec quelqu'un qui fait des jeux de mots à tout bout de champ.
Cette voie tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpites, entre les tombes, midi le juste, et compose de feu la mer. La mer toujours recommencée.
Donc Debord était forcé de se séparer de Dufresne pour faire son international. Et donc c'est au retour des vacances d'été, courant septembre, que Debord, qui avait ça en tête, très certainement, l'a créé. Celui qui était le plus là avec Debord, c'était Gilles G. Volman. Autrement, quand Debord dit que Jean-Michel Mansion était décoratif, c'est un petit peu vrai. Il faut voir que tout ce qui, à cette époque-là, est inscrit dans les journaux, les citations, c'est des choses que les gens disaient, mais sans s'en apercevoir, comme ça. Et Debord enregistrait et créait des auteurs. Parce que, comme il aimait la clandestinité, il signait pas les articles. Hein, et il faisait... Il suscitait des éléments chez les autres. C'était ça qui était assez intéressant de le voir manœuvrer. C'est pas quelqu'un qui disait « nous allons aller à tel endroit ». Il disait « peut-être pourrions-nous nous diriger vers tel endroit ». Et tout le monde suivait, il avait une autorité naturelle comme ça. Et puis, il y avait un groupe comme ça, des...
Tchigloff aussi.
Les familiers. Ah oui, mais lui, il faisait vraiment partie de... Mais c'était quelqu'un que je ne considérais pas, hein, sauf dans la parole. C'était quelqu'un qui était capable d'imaginer des mises en situation.
Qu'est-ce qu'il racontait, en fait ?
Ben, comment rendre folle la mère d'un camarade ? Alors, ben, tu vas nous inviter et tout, et puis on parlera posément... Et puis, on lâchera le verre par terre et on reprendra la conversation comme si rien ne s'était passé et tout. Faire des gestes absurdes, casser quelque chose. Et alors, quand il le racontait, c'était formidable. On voyait qu'il était capable de démolir quelqu'un en restant très calme et que la personne en face était subjugué, ne savait pas comment l'attaquer, lui dire de sortir. Il avait une force comme ça pour... Alors, il y avait Patrick Straham qui avait fait un roman. Hein. Alors c'était un roman qui partait de l'idée de, au-dessus du volcan, un petit peu ce genre-là, et, avec des embouteillages rue du Four, rue Bonaparte, etc. Mais Debord était contre le roman, pour ça il ressemblait à André Breton. Et donc il disait, Patrick Strara est intelligent, il saura très bien démolir son roman, le brûler. Hein. Et Patrick Straram était un type, c'était une pièce rajoutée, mais il était plus jeune. Il y avait comme une auréole au-dessus de lui, parce qu'il faisait partie d'une bourgeoisie. Toute la famille habitait la même maison, et la maison était familiale. Il était le descendant d'un maire de Paris de 1848. Alors, quand il a été à Maison-Blanche, parce qu'il voulait se faire passer pour fou, déséquilibré, pour ne pas aller à la guerre d'Algérie. Et donc, il est parti au Canada. Il a déserté à ce moment-là. Et je sais que Jean-Louis Brault l'a retrouvé au Canada, à la radio au Canada.
Nos aventures ressemblent aux boules magnétisées des billards électriques, aux trajectoires irresponsables et pourtant calculables. C'est pourquoi, au cœur de l'été 53, errant dans les petites rues derrière le Panthéon et buvant des verres dans des bistrots de campagne, j'écoutais avec intérêt Guy me parler d'un ancien projet de billard électrique dont le titre était quelque chose comme « Tentative de description métagraphique des sensations thermiques et des désirs des gens qui passent devant les grilles de Cluny une heure environ après le coucher du soleil » et qui me semblait d'un art plein d'avenir. Nous avions des points communs, bien décidés tous les deux à détraquer la mécanique pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Ivan Tchegloff, dit Gilles Yvain, introduction au continent contre-escarpe, 24 janvier 54.
La rencontre avec Debord, c'est un repère chronologique, un des rares repères chronologiques précis qu'on ait dans cette histoire. Tchegloff et Debord se rencontrent le 16 juin 1953. Ils font leur connaissance à ce moment-là précisément. Et il faut préciser là que Tchegloff est effectivement depuis quelques années déjà sans doute attentif à une sorte de bouillonnement artistique, culturel dans Saint-Germain, et donc il a quand même déjà à cette époque-là été en contact avec diverses manifestations lettristes. Dans un certain nombre de textes inédits que Jean-Marie Apostolides et moi avons retrouvés, on peut trouver par exemple la mention du fait qu'il a été un des rares spectateurs présents lors de la première projection du film de Guy Debord, Hurlement en faveur de Sade. Il se souvient de cette première projection qui n'est pas allée jusqu'à son terme. Il était là, présent dans la salle. Si on veut en fait comprendre comment Ivan Tchegloff a pu s'agréger à cette mouvance, il faut peut-être revenir à une histoire d'amitié très forte et très importante dans son parcours, qu'il a lié avec un jeune garçon de son âge extrêmement doué et brillant, qui est une sorte de figure fantôme dans cette histoire, qui est Henri de Béarn. Et Henri de Béarn, qui était en 1950-51 une des figures des cafés de Saint-Germain-des-Prés, une figure marquante de cette jeunesse un peu marginale, Henri de Béarn donc s'intéressait beaucoup à toutes les formes d'agitation et de révolte qui trouvaient à s'exprimer de façon plus ou moins consciente ou parfois plus ou moins maladroite dans Saint-Germain. Henri de Béarn avait été spectateur probablement du scandale de Notre-Dame, ou en tout cas il avait participé au meeting des ratés qui en avait été en quelque sorte une répétition générale et qui avait permis de monter l'opération.
François Dufresne, vous intitulez poète ultralettriste. S'agit-il d'un nouveau mouvement littéraire ?
Non, pour l'instant, d'un simple mouvement d'humeur personnelle. C'est une prolongation et un éclatement du lettrisme de 1946 d'Isidore Isou.
Comment pouvez-vous définir votre poésie ? Par rapport aux recherches dadaïstes et par rapport à la musique concrète ?
Les recherches dadaïstes sur le bruit était beaucoup plus proche du lettrisme que de ce que je fais.
J'ai été exclu pour travail fractionnel, c'est tout dire. Ça veut dire que j'avais constitué, soi-disant, aux yeux de Breton et des autres, une fraction à l'intérieur du groupe sur la liste avec Mata et Victor Bronner. J'ai raconté ça à Tsara, d'ailleurs, que j'ai connu peu après. Et il m'a dit, vous avez 20 ans, vous êtes déjà exclu sur la liste à 20 ans. Ben, je dis oui, comme ça. Et il me dit, mais vous serez libre toute votre vie. J'ai fini par accepter d'aller assister aux réunions de la Place Blanche, c'est-à-dire les réunions du groupe. Mais Dufresne, je l'avais rencontré déjà par une autre biais. Et il m'invitait chez lui souvent, et on discutait de tout. Et ce qui m'intéressait chez Dufresne, c'était qu'il avait été proche du temps du soulèvement de la jeunesse créé par Izou. Il avait été très proche quand même, pendant pas très longtemps, parce qu'il y avait quand même des difficultés d'entente caractérielle entre eux. Mais il avait quand même été proche de Guy Debord. Donc je me suis renseigné à travers François sur les activités réelles, le comportement réel de Debord, que j'apercevais de temps en temps dans un bistrot, un petit bistrot assez bon marché de Saint-Germain-des-Prés, où il allait chez Moineau, et où il était toujours assez élégant d'ailleurs. Mais je me méfiais un peu de ce type, parce que ce que m'avait raconté Dufresne prouvait qu'il était encore plus autoritaire que Breton, qui l'imitait, en quelque sorte. Debord a suivi la méthode des exclusions et aussi de l'action collective en dehors des sphères traditionnelles de l'art, évidemment. Il a repris, Debord a eu l'intelligence de systématiser, en quelque sorte, l'héritage dada et surréaliste.
Circonspection extrême dans la présentation d'œuvres personnelles pouvant engager l'IL. Exclusion ipso facto pour tout acte de collaboration à des activités isouïennes, fût-ce pour la défense de l'IL. Exclusion de quiconque publiant sous son nom une œuvre commerciale. Pour solde de tout compte, à Aubervilliers, le 7 décembre 1952. Jean-Louis Brault, Guy Ernest Debord, Chilji Volman, Serge Bernard. Conférence d'Aubervilliers.
Les exclusions étaient fréquentes et
oui, voilà.
C'était raisonné, mais parfois c'était simplement sur un coup de tête.
Un coup de tête ou vraiment.
Oui,
oui, devant l'église Saint-Germain. Oui. Alors, c'était là, il y avait toi, il y avait Garance et moi.
C'est Hafid qui était son garde du corps.
Abdel Hafid Khatib, dit Hafid, membre de l'Internationale lettriste, puis situationniste, ami de Guy Debord, il est l'auteur d'un essai de description psychogéographique des Halles.
Quand on lit la correspondance de Debord, il vous voyait après, vous avez relativement longtemps, puisqu'il parle de vous dans sa correspondance.
Oui. J'ai été ami avec lui jusqu'à... Je ne dis pas jusqu'à sa fin, parce qu'on ne s'est pas vu les dernières années.
Il était
en Haute-Loire, là. Je ne l'ai plus vu à ce moment-là.
Ouais.
Autrement, non, j'ai toujours été... Je ne suis pas dans son... insulté dans son livre d'insultes.
Marco.
La rupture, c'était une brouille qui était entre Dufresne et Volman. Et là, moi, je voyais Dufresne tout le temps, parce que on voulait créer le soulèvement de la jeunesse. Et Debord, l'histoire de la jeunesse ne l'intéressait pas du tout à l'époque. Volman et lui, ils étaient inséparables, et nous, d'autre côté. Alors, c'est Dufresne qui me raconte l'histoire. Il me dit, j'ai rencontré Debord. Il a une main, il me dit, ah, bonjour Dufresne. On se serre la main pour la dernière fois. Je veux plus te voir, je veux plus te parler. Au revoir.
Contact des mots camés. Homme, t'es des hommes, nébus. On dit homophonie focale. T'es des songes, t'es songes, t'es
Hum, hum. Jetait des busquets, Belzébuth et Zébu.
Il avait un ton d'improvisation extraordinaire. Et en plus, il avait aussi une oreille exceptionnelle qui lui permettait d'associer des mots, tous des noms d'ailleurs, les uns avec les autres, d'une manière complètement nouvelle, fracassante. Il y en a un autre dans le groupe Lettrice que j'ai aussi rencontré, qui était très doué lui aussi, qui s'appelle Gabriel Pomeran. Un type merveilleux d'ailleurs. Mais il était drogué. Bon. Il habitait rue Saint-Benoît, à côté du Flore. Enfin, il était stratégiquement bien situé, disons, entre le Flore et Demago. Et c'était un type beaucoup, qui avait beaucoup de charme et qui était doué. Moi, j'ai entendu plusieurs fois Pomeran lire ses poèmes, des poèmes. Ça, alors, c'était, ça dominait de très haut, Izou. Hein. Parce que la qualité de la lecture compte beaucoup. C'est quand même de l'ordre de la poésie orale.
Alors que Pomeran,
Christian Bourgois,
était un personnage assez difficile, enfin, qui était assez violent, assez verbalement, qui était assez agressif avec les gens, j'ai tout de suite entretenu avec lui des relations de confiance, d'amitié, et on se voyait très souvent au Flore, où il passait une grande partie de ses soirées, et je savais qu'il avait publié chez Julliard des années auparavant « Testament d'Anacquité », je savais le rôle qu'il avait joué dans le mouvement lettriste, ses liens avec un grand nombre de gens à Saint-Germain, ce petit personnage noir, aux yeux très noirs, habillé en noir, ennemi en dehors de toute mode, mais vraiment assez ailleurs, vivant enfermé dans cet appartement de la rue Saint-Benoît qu'il avait fait entièrement décoré en acajou. C'était vraiment un dandy, lui aussi. Gabriel avait fait venir m'avait raconté des billes d'acajou, d'un certain acajou d'Afrique, et puis cet acajou ne lui avait pas convenu, donc il avait refusé les billes pour en commander d'autres. Et il avait fait une sorte de bateau. Enfin, ça faisait penser à la décoration d'un bateau anglais du 19e siècle, tout en acajou. Et il vivait dans une chambre complètement fermé, sans ouverture. Il avait un grand lit chinois magnifique. Il avait 10 000 disques. Mais il n'écoutait pas de musique. Enfin, pas en tout cas quand j'étais. Mais il avait des disques. C'était un des plus grands collectionneurs de micro-sillons de Paris. Et il avait surtout une magnifique, fabuleuse collection de pipes à opium. Pipes dont il se servait beaucoup. Il était amoureux d'une femme belle qui s'appelait Aude. Et dans un moment de transe amoureuse et de jalousie, et de fureur et d'alcool ou d'opium, je ne sais pas, il s'est gravé le prénom de la femme aimée sur le front. Donc il avait vraiment dessiné ces quatre lettres. Mais il en parlait presque comme d'une folie distrayante, amusante. Il avait fait cette folie. Bon. C'était un personnage sombre, noir, mais pas sinistre du tout. Et qui avait une espèce de vitalité, de drôlerie, de sarcastique, mais qui n'était absolument pas prisonnier des modes.
Et vous verrez qu'ils seront célèbres plus tard.
Hurlement en faveur de Sade, Guy Ernest Debord.
Je n'accepterai jamais l'existence scandaleuse et à peine croyable d'une police. On a élevé plusieurs cathédrales à la mémoire de Serge Bernat. L'amour n'est valable que dans une période pré-révolutionnaire. J'ai fait ce film pendant qu'il était encore temps d'en parler. Jean Isidore, pour sortir de cette foule provisoire. Sur la place Gabriel Pomeran, quand nous aurons vieilli.
Merde, François, tu vas l'envoyer en l'air, ce rossignol. Je sais pas que le rossignol ne doit pas parler quand un poète chante. Mais je voulais dans un peignoir au chiottes.
Turn Back Nightingale, Jean-Louis Brault. Lettriste, puis fondateur de l'international lettriste, il est exclu pour déviation militariste. Participe à la guerre d'Indochine, puis à la bataille d'Alger, avant de retrouver François Dufresne et Gilles Volman pour la deuxième internationale lettriste.
C'est en 1952, lorsqu'il y a eu l'éclatement.
Jacques Villeglay.
D'un côté, il y a eu le soulèvement de la jeunesse, l'internationale lettriste, et Izou est resté avec Maurice Lemaître. Donc, à partir du mois de novembre 1952, on a fréquenté qui Ernest Debord, Volman, Jean-Louis Brault. Mais on n'en faisait pas partie, on était trop vieux. Hein. Moi j'avais 27 ans, et 27 ans, j'étais un vieillard. Il faut penser que Debord venait juste d'avoir 21 ans. Donc 6 ans de différence, c'était énorme. Alors on était tolérés chez eux. Bon, on parlait pas de nos affiches lacérées, on savait qu'ils trouvaient ça bien. Ceux qui n'aimaient pas, c'est les gens qui voulaient faire carrière. Donc, quelqu'un qui voulait faire carrière, qui était opportuniste, était tout de suite rejeté. Jean-Michel Mancion le raconte très bien dans son livre « La tribu ». Alors, ça a duré 10 mois, hein. Là, j'ai très bien compris comment était qui Ernest Debord. C'était un type qui avait énormément de charme, qui pouvait être très très dur, très injuste. J'avais compris son goût de la clandestinité, sa mystique de la rupture. Donc, je savais que ça ne pouvait pas être une relation suivie. Donc, quand je suis revenu à Paris au mois d'octobre 1953, nous ne nous sommes pas fréquentés du tout. Hein. Il y a eu une histoire d'incendie chez Hans, où toute notre bibliothèque a été volée, et Debord attisé un petit peu l'affaire, certainement. Et donc, on ne s'est plus fréquenté, et à ce moment-là, avec Hans, on a fait connaissance de François Dufresne. Moi, les deux lettristes que j'admirais le plus dans les récitals, c'était François Dufresne et Gilles J. Volman. L'un a créé la mécanomie qui dépasse le lettriste très nettement, et l'autre le cri-rythme. Et j'ai assisté à la lecture chez Moineau, à gauche, demi-tour.
Demi-tour, fausse route.
Ouais. Et je me souviens de les voir lire ça. Qui Ernest Debord, Volman, Jean-Louis Brault. Et dire, ben, on est peut-être. Il y a 6 personnes qui peuvent comprendre cet article-là.
Raymond et Villeglay sont arrivés en même temps, on les a vus. Le jour où ils sont arrivés, ils étaient devant la porte de chez Moineau, ils n'osaient pas rentrer, puis finalement ils sont arrivés. Ben, eux avaient fait les Beaux-Arts.
C'était un type adorable. Et
oui.
On lui faisait souvent les poches, mais.
Oui. Mais lui, il a toujours eu de l'argent. Hein. Bon, il habitait rue de Lambre, il avait une. Et justement, Mancion et Eliane Brault, après, mais qui était Eliane Mancion avant, ils ont fait les caractères éclatés, tout ça. C'est eux, parce que Raymond. Il disait les choses, mais enfin, il touchait à rien. Même les affiches, jamais il a touché une affiche.
C'est Mancion qui avait décollé parce qu'il était, il était un peu timoré, il avait un peu la trouille de faire ça. Il choisissait après les...
Il était amoureux de Mancion. Même encore, il allait...
Il présenter ce qui lui plaisait. Mais
pour ses 70 ans, il est vraiment venu là-bas.
Le café, c'était chez Moineau. 22 rue du Four, un pâté de maison de Saint-Germain-des-Prés. Des gens du monde entier y entraient. C'était un havre pour réfugiés. Tchegloff était d'origine russe. Futurs artistes, candidats au suicide, fugueurs et individus en rupture de banc, petits malfaiteurs, revendeurs de kiff, clochards, excentriques, un vieil homme faisait régulièrement son apparition avec un casque de guerrier japonais duquel, au moyen d'un fil, il faisait jaillir un paquet de cigarettes. Et la nouvelle internationale lettriste. Autant dire une table où s'asseyaient ceux que Debord jugeait prêts à changer le monde. Certains, comme Serge Bernat, avaient déjà leur légende. Avec nous, il y avait Ivan Tchegloff, et Patrick Straram. Jean-Michel Mention. Gaël Marcus. Lipstick Traces.
Je veux revenir sur l'idée d'un dépassement de l'art en le réalisant dans la vie quotidienne. C'est
Boris Donné.
Ce point-là qui est au cœur de la relation entre les trois amis, entre Debord, Stegloff et Straram. Debord, dès 52, quand il fonde l'International Lettriste, a cette idée que les arts futurs seront des bouleversements de situation ou rien. L'idée de construction de situation qui va devenir le mot d'ordre sur lequel se fonde l'International Situationniste, il l'a déjà en tête. Mais ce que pourraient bien être concrètement ces constructions de situation, je pense qu'il n'en a pas encore d'idée très claire. Et précisément, ce que va lui apporter la rencontre avec Stegloff et avec Straram, ça va être la découverte de directions dans lesquelles on peut trouver une première réalisation de ce programme de dépassement de l'art. Stegloff, par cette approche visionnaire de la ville qui est la sienne, en le lançant dans les premières dérives, en imaginant cette transfiguration de la ville à travers ses rêveries autour de l'urbanisme, Stegloff lui montre une première voie de construction de situations possibles, l'exploration des instances secrètes de la ville, pour reprendre en la détournant une formule de Julien Gracq. Straram, qui vit sa vie sur le modèle d'une improvisation de jazz, c'est-à-dire en reprenant des thèmes qui existent déjà, des thèmes littéraires qui existent déjà, en composant autour des variations élaborées, là aussi, lui montre comment il est possible de conserver un certain nombre d'éléments de l'héritage artistique, tout simplement, dans la construction de sa propre existence. Et c'est, au sens très large, ce que va être la métagraphie et que Debord ensuite va théoriser sous le nom de détournement. Donc, ces deux amis lui indiquent des voies de réalisation de son programme de dépassement de l'art par la construction des situations. Mais il faut dire que si ces modes de construction de situation s'inventent dans l'enthousiasme en 53-54, c'est en même temps aussi avec un fort degré d'alcoolisation et avec l'aide des drogues que tous les trois pratiquent à cette époque-là. Donc ces périodes sont d'une intensité extrême. Ces trois jeunes gens ont l'impression de tout inventer, de tout découvrir, mais en même temps, petit à petit, les repères même de la vie quotidienne pour eux sont perdus, les dérives se prolongent, parfois même pendant plusieurs semaines, voire jusqu'à quelques mois, et aucun ne sort indemne de cette expérience. Et si le parallèle peut être fait avec le surréalisme, plus peut-être qu'avec l'exclusion d'Artaud, je dirais que c'est avec le moment de la période des sommeils dans le surréalisme, ou même les débuts de l'écriture automatique. Breton note bien qu'on était engagé là dans un processus expérimental qui avait atteint un certain degré au-delà duquel il aurait été dangereux de continuer. On met fin à l'expérience, on tire profit de ses résultats, mais il serait sans doute téméraire d'aller au-delà.
Jaillit des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs, les appels longtemps contenus, les cris d'espérance et les ordres.
Il y a évidemment le fantasme du commando, hein, puis ce qui deviendra le mode d'expression emblématique de la génération, le graffiti sur le mur, c'est la pratique de la résistance, c'est le travail de Villeglay qui reprend les modes de censure, non pas par effacement, mais par détournement des lettres qui étaient ceux de la police et des nazis pendant la guerre, ça dit bien ce que c'est, quoi. Il me semble que tout ça, c'est une lecture qu'on aurait eu beaucoup de mal à faire jusqu'à il y a 10-15 ans. Le travail n'est plus aujourd'hui de l'oubli nécessaire, mais au contraire de la part de redécouverte indispensable. Mais la dérive peut quand même être lue comme venant plutôt du surréalisme. Il y a dans les textes de dérive de Debord et Volman, me semble-t-il, le souvenir, même s'il est iconoclaste, d'André Breton. À un moment donné, il remonte vers le nord et il tombe devant la charcuterie André Breton. Et le processus est quand même celui de la déambulation bretonienne. Enfin, les avant-gardes des années 50, lettristes, situationnistes ou apparentés sont légitimement en colère contre
tout ce qui rattache le surréalisme aux tables tournantes et aux mares de café, que la protestation de raison est pour essayer d'extirper la part d'expérience hallucinatoire que le surréalisme met en avant, de l'extirper du fatras ésotérique et des racines psychiatriques, parce que l'automatisme mental, c'est un mot, c'est Pierre Janet. Donc si les mots ont une mémoire, celui-là est quand même né dans un asile.
Conférence sur le surréalisme, Guy Debord.
Le côté rétrograde du surréalisme s'est manifesté d'emblée par la surestimation de l'inconscient et sa monotone exploitation artistique. L'idéalisme dualiste qui tente à comprendre l'histoire comme simple opposition entre les précurseurs de l'irrationnel surréaliste et la tyrannie des conceptions logiques gréco-latines. La participation à cette propagande bourgeoise qui présente l'amour comme la seule aventure possible dans les conditions modernes d'existence. Cette ambivalence du surréalisme a duré une dizaine d'années seulement.
Relevé d'ambiance urbaine au moyen de la dérive, Les Lèvres Nues, numéro 9. Le mardi 6 mars 1956, Guy Ernest Debord et Gilles J. Volman se rencontrent à 10h dans la rue des Jardins Paul et partent en direction du Nord pour reconnaître les possibilités d'une traversée de Paris à ce niveau.
Je crois que cette notion de relevé est très importante et on pourrait la lier à un certain nombre d'autres concepts ou termes qui vont dans le même sens. Il n'y a pas d'art lettriste et plus tard d'art situationniste, il n'y a pas de reprise ou de représentation d'une expérience vécue dans quelque chose qui ne serait plus qu'une représentation. Par contre, il y a des relevés, il y a des attestations, il y a dans l'œuvre de Debord, dans beaucoup de choses qu'il a écrites ou aussi dans certaines des images qu'il a produites, quelque chose de, je dirais, de presque juridique. Il s'agit de témoigner de ce qui a existé. Mais d'en témoigner, par exemple, avec ces fameux plans psychogéographiques qui sont extrêmement suggestifs, qui suggèrent une sorte d'expérience d'investigation d'un certain nombre de quartiers de Paris ou d'autres villes.
L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite.
Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, 1959, Guy Debord.
Les mêmes heures ramenaient aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait.
Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage.
Mais la particularité, c'est qu'en même temps, ce ne sont que des relevés, ce ne sont que des traces, des témoignages de quelque chose dont le lecteur ou celui qui voit ces plans géographiques ne peut pas faire ensuite lui-même l'économie au niveau de sa propre expérience. Donc ce ne sont pas des représentations, ce ne sont jamais des récits, bien entendu, ce sont des traces qui sont laissées, des traces qui suggèrent qu'une expérience a été faite, que quelque chose a été vécu et que on ne pourra pas le revivre par procuration simplement en lisant des comptes rendus. Il y a là quelque chose que chacun doit refaire pour lui-même et par lui-même. C'est ce sens du témoignage, de l'attestation.
Ce qui différencie le passé du présent est précisément son objectivité hors d'atteinte. Il n'y a plus de devoir être. L'être est à ce point consommé qu'il a perdu l'existence. Les détails sont déjà perdus dans la poussière du temps. Laquelle avait peur de la vie, avait peur de la nuit, avait peur d'être prise, avait peur d'être gardée.
Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Des années passent et nous n'avons rien changé.
Encore une fois, le matin, dans les mêmes rues. Encore une fois, la fatigue de tant de nuits pareillement traversées. C'est une marche qui a beaucoup duré.
Je crois que si Debord s'identifie à des figures comme le diable, Lassner, le bandit écrivain, on pourrait en citer un certain nombre d'autres. C'est quelque chose qu'on peut lier à sa volonté de conflictualiser ses rapports au monde. C'est une donnée fondamentale en ce qui concerne Guy Debord. Je crois que du début à la fin de son parcours, il a aimé la guerre et il a aimé faire passer cette guerre dans les rapports qu'il a entretenus avec la société de son temps. C'est quelque chose qui passe, je crois, dans tous les livres, tous les films qu'il a fait. Il y a toujours une dimension d'affrontement avec la société, avec ses lecteurs, avec les spectateurs, dans tout ce qu'il a fait. Il est fait comme ça, Guy Debord. Il se constitue dans un rapport conflictuel au monde. Il s'imagine en agent de conflictualisation. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi des identifications? Pourquoi cette espèce de mise en légende de soi-même chez Debord? C'est aussi une façon d'échapper au regard de ce qu'il appellera plus tard la société du spectacle. Il y a, dans la multiplication des identifications proposées par Debord, qui sont incontestables, il y a justement une volonté d'échapper à l'identité, à l'assignation à une place, à une identité, à un rôle par la société et dans la société.
C'est ainsi que nous nous sommes engagés définitivement dans le parti du diable.
In Jerum imus nocte, et consumimur igni, Guy Debord.
C'est-à-dire de ce mal historique qui mène à leur destruction les conditions existantes. Dans le mauvais côté qui fait l'histoire en ruinant toute satisfaction établie.
Mais aurais-je interrompu votre partie? Ça ne fait rien, j'étais battu d'avance. Croyez-vous? Échec et mat. Vous avez gagné. C'est si simple, les échecs.
C'est donc aussi une stratégie de la contestation du marquage social. Je crois que dans la mise en légende de Debord, dans tous ces portraits de lui-même qu'il nous propose, il y a là encore un élément de jeu. Et le jeu consiste à échapper à toute identification, à tout arraisonnement, à toute assignation possible.
Tristes enfants perdus, nous errons dans la nuit. Où sont les pleurs de jour, les plaisirs de l'amour, les lumières de la vie?
Il était souteneur, et donc je pense qu'il a dû avoir des problèmes avec le milieu, quoi.
Et donc il avait créé cette boîte, enfin,
oui, qui s'appelait L'Homme de Main. Oui. Oui. Oui, c'est enfin, Debord qui avait trouvé le titre. Oui. C'était un jeu de mots sur le de main.
Oui.
Parce que, et c'était un homme de main.
Guilain de Marbais, assassiné dans des conditions demeurées obscures, qui Debord le compare à Régny de Montigny, l'ami de François Villon, dans une comparaison avec leur propre amitié. Son visage apparaît dans de nombreux films de Debord.
Il était au Dupont, justement. Oui. Il était avec une femme de couleur à l'époque.
Oui.
Avec des enfants, il faisait la manche. Enfin, il faisait faire la manche, pardon.
Oui.
Il demandait à des jeunes d'aller faire la manche au bistrot. Mais lui, il ne bougeait pas.
C'est comme tous les poètes, là, je ne me rappelle plus ceux qui avaient, enfin si Jean-Michel évidemment avait participé au vol de plomb dans les catacombes. C'est-à-dire couper tous les. C'était le téléphone qui passait généralement dans des gaines de plomb, alors ils en ont coupé je ne sais pas combien de mètres dans les catacombes.
Maintenant les gens font ça avec le cuivre.
Voilà, et quand ils ont été attrapés et jugés, ils disaient qu'ils étaient poètes et c'était pour fondre des caractères pour pouvoir imprimer leurs poèmes. C'était quand même une défense intéressante.
Une belle défense.
Il y avait Serge Bernard,
oui, bah oui.
Évidemment, dans le coup.
La période 53-54 où tout s'invente de manière un petit peu désordonnée et dont on a parlé a été quelque chose de très intense. Et la plupart des idées sur lesquelles l'international situationniste s'édifie à partir de 1957, elles viennent de ces quelques mois de complicité avec Steglov, avec Straram, ou même un peu avant, des quelques mois passés en compagnie de différents marginaux dans le bistrot de la rue du Four chez Moineau. Et Debord, quand il fonde l'international situationniste, a le sentiment, je pense, que cette période d'une intensité extrême est déjà très loin de lui, qu'il en a, il peut encore la ressaisir par le souvenir, mais que elle s'éloigne à très grande vitesse et qu'il s'agit de fixer quelque chose de cela avant qu'il ne soit trop tard.
Au bord de la rivière, recommençait le soir et les caresses et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses confusément et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même, la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois.
Ce livre qu'il compose presque dans la foulée de la fondation de l'International Situationniste, Les Mémoires, il est en quelque sorte un mémorial qui doit conserver un certain nombre d'images, un certain nombre d'associations fortes, lui permettant à lui et à ceux qui ont partagé avec lui cette aventure d'en retrouver toute la puissance et toute la force. Il le fait donc d'une manière qui est presque cryptée, c'est-à-dire en jetant au milieu de pages, des détournements de phrases qui ont été prélevées dans des livres, des classiques, ou bien des ouvrages plus communs, dans des revues, dans des journaux, en y collant des images, des photographies de ceux qui ont compté pour lui. Estraram et Steglov ont leurs photos à l'intérieur de ce livre, ont des pages qui leur sont consacrées. Et comme une sorte d'évocation de l'intensité presque volcanique de ce moment, les collages de Debord sont recouverts par des taches et des tracés colorés qu'il a demandé à Asgerjorn de réaliser pour lui dans des couleurs très très vives et qui donnent comme l'image de ces coulées de lave qui restent pour lui le souvenir de cette période. Donc il a voulu, je pense, vraiment marquer à travers les mémoires ce qu'il devait à ce moment dont l'international situationniste hérite à la fois d'un refus de la société, d'un nihilisme qui était celui de ces jeunes gens dont certains ont été conduits au suicide et qu'on trouve aussi présents dans les pages du livre. Par exemple, un personnage assez intéressant, Kaki, une jeune fille qui avait été mannequin et qui s'est ensuite engagée très loin dans les drogues et qui a fini par se suicider, enfin par mourir dans des circonstances mal expliquées.
Mais moi, je pense qu'elle ne s'est pas suicidée. Hein.
C'est un accident.
Parce qu'elle elle habitait à cet hôtel à Montparnasse, derrière la rue Froidevaux, là. Et elle avait une chambre au rez-de-chaussée. Et elle avait l'habitude de sortir par la fenêtre. Hein, qui était, parce que c'est le rez-de-chaussée, bon, pour sortir, elle sortait par la fenêtre. Bon. Et là, elle était à une soirée où je pense qu'ils avaient, parce qu'elle était avec Boris, qui l'Américain là, qui se shootait vraiment beaucoup, enfin plus que ça. Oui, c'était
le. C'était
la coke ou je sais pas. Enfin bon, c'était ouais. de la drogue dure quoi. Bon, et donc et à un moment, elle a dit. « Oh, mais vous m'emmerdez !» Et elle a ouvert
elle est sortie par la fenêtre,
oui. Comme si elle sortait de chez elle. Mais elle était au troisième étage.
Au quatrième.
Paf. Et comme elle devait peser 40 kilos, tu vois...
Oui, parce qu'elle était mannequin, en fait.
Il ne pouvait pas être discipliné, c'est pas possible. Ça, oui.
Donc d'un côté, l'international situationniste hérite du nihilisme, du refus du monde tel qu'il est de ces jeunes gens, et puis elle hérite aussi de ce que le trio qu'il a formé avec Straram et Steglov a pu construire en quelques mois, fin 53, début 54, et il s'agit dans les pages de ses mémoires, à travers ses collages de manière elliptique, de conserver une trace qui parlera au moins pour lui et pour ceux qui ont partagé cette aventure de ce moment magique.
Le voilier passé le cercle du tropique a stoppé sur l'eau tranquille où meurt le vent.
Quelqu'un, par exemple, comédien de papa, et Valis, c'était presque des égéries.
Oui, c'était un tableau vivant qui était là. C'était quand même extraordinaire.
Qui a beaucoup contribué. Ah oui.
Elle avait à l'époque quand même les cheveux rouges. Hein. Et puis alors maquillée d'une façon. Ça vraiment, tout le monde s'est retourné sur elle. Ouais. Mais elle n'a jamais réussi à parler vraiment français.
Oui, c'était.
Donc ça ne l'intéressait pas, oui.
C'est comme une star du.
Oui, voilà, c'était oui, le tableau, puis la sculpture.
Comment vous l'avez fait venir pour dire ce qu'elle, en fait
Je l'ai croisé sur le boulevard Saint-Michel un jour, et je l'ai tapé un peu d'une cigarette, d'un peu de sou, etc. Et je l'ai emmené au Dupont Latin. Et tout a commencé là, il a commencé à photographier les gens au Dupont Latin. Et puis après, il est resté là, il a suivi toute l'errance et tous les déplacements, ouais. Les divers.
Oui, il vivait avec nous.
Et Yann, alors, c'était aussi.
Elle est arrivée à 14 ans quand même. Donc,
oui.
C'était oui. Très violent à cette époque-là. Il se faisait ramasser sans arrêt par les flics avec Jean-Michel. Et donc, ils étaient enfermés dans des cages au commissariat Saint-Germain-des-Prés. Ils hurlaient, nous sommes des mineurs. Donc, ils étaient obligés de délibérer au bout d'un moment. C'était toujours
très... Et Yann, elle était capable de tout.
Elle faisait n'importe quoi. Elle pouvait se mettre à poil et traverser un bar.
Souviens-toi, on passe un réveillon. Ils habitaient là-haut, comme à Belleville. Et on descend après l'avion, il était, je sais pas, le matin. Et on arrive dans un grand bistrot, et avec un énorme comptoir, c'était une série de bistrots. Et à un moment, elle est montée sur le bar, et elle s'est foutue à poil. Il n'y avait que de vieux arabes qui étaient là, qui avaient passé une nuit de réveillon dégueulasse, qui étaient tristes devant leur café, tout ça. Ils ont eu leur fête. Et elle est passée, alors on l'a renversée avec ses pieds, comme ça. Et là, on a été obligé de la prendre avant que les flics n'arrivent. Terrible. Puis quand j'étais avec Bro, elle était épouvantable. Moi, je l'ai vu me prendre un verre, paf, 4-5 verres, balancé là. Oh, elle était redoutable. Oui, des fois, bon, il valait mieux s'écarter un peu, parce qu'ils cherchaient, en plus. Ils décidaient de sortir, et on savait très bien, ils allaient chacun de leur côté, dans le bar, et c'était sûr qu'il y avait la bagarre à la fin.
Chez Gloff, il était un peu fou, mais pas qu'un petit peu. Je crois que réellement, il avait un grain. Et, mais il avait des moments, enfin, absolument, où il était adorable et très intéressant. Et il avait toujours d'excellentes idées. C'était quelqu'un de très brillant, très intéressant. C'était vraiment un feu follet.
Maintenant, c'est joué. L'Hacienda... Tu ne la verras pas. Elle n'existe pas. Il faut construire l'Hacienda. Ivan Tchegloff, formulaire pour un urbanisme nouveau.
Sans doute en 1949, dans les pages de Combat, il découvre la prépublication en français du roman de Malcolm Lowry Au-dessus du volcan, et tout de suite, l'univers du Mexique avec ses mythes si particuliers le fascine, et c'est quelque chose qui s'agrège aux références qui sont les siennes jusqu'alors.
Les fantômes irréguliers de l'avant-garde. Les années lettristes de Guy Debord ou la poésie du scandale. Avec la participation de Nicole Brenez, Christian Bourgois, Alain Jouffroy, Sacha Strelkoff, Claude Clavel, Jacques Vilglé, Vincent Kaufmann, Boris Donnet, Jean-Marie Apostolides, Marco, Didier Semin. Et les voix de Guy Debord, François Dufresne, Gilles Givolman, Isidore Izou, Vali Meyers. Texte lu, Juliette Piedvache, Marc Sayous. Prise de son, Célia Dufour, Maë Fouyantran. Mixage, Éric Boisset. Une émission de Yann Ciré, réalisée par Pierre Villers. Demain, les fantômes irréguliers de l'avant-garde. Deuxième partie, les armes de l'errance ou l'art de la négation.
L'ordre règne et ne gouverne pas.
C'était Surpris par la nuit.